Chapitre 30, première partie, non à la violence des armes. Les hommes qui, en Tao, donnent leur aide à celui qui gouverne le peuple, ne soumettent pas le royaume par la violence des armes. Ce que l'on fait à autrui se retourne contre nous de la même manière. Partout où sévissent les armées, croissent les épines et les chardons. Il est assuré que des années de famine suivent les grandes expéditions. L'homme vraiment bon frappe un seul coup avec fruit, puis cesse. Il n'ose pas persévérer dans la violence grossière. Il frappe un seul coup juste, mais ne s'en glorifie pas. Il frappe un seul coup juste, mais ne s'en vante pas. Il frappe un seul coup juste, mais ne s'en enorgueillit pas. Il frappe un seul coup juste, mais uniquement parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il frappe un seul coup juste, mais ne veut paraître ni fort ni puissant. Au sommet de leur force, les hommes et les choses déclinent. Cela signifie qu'ils ne sont pas semblables à Tao. Et ce qui n'est pas semblable à Tao prend rapidement fin. Tao Te King, chapitre 30. Remarquez qu'au 30e chapitre du Tao Te King, Lao Tzu nous fait aborder un sujet dont on parle beaucoup à notre époque, sans pour autant l'épuiser, et qui met en mouvement beaucoup de plumes et de bouches. Il s'agit de la grande discussion sur le pour ou contre de l'arbitrage des conflits par la violence des armes dans le monde moderne. En fait, cette discussion à l'échelon mondial arriva à son apogée il y a quelques dizaines d'années. Les lecteurs les plus âgés se souviennent de l'intense lutte non violente menée par de grands groupes d'idéalistes variés contre les porteurs d'armes et les partisans de l'armement. Des millions d'humanitaristes impliquèrent leur tête et leur cœur dans cette agitation, agitation si soutenue qu'aux Pays-Bas, par exemple, le refus de porter les armes, par idéal ou par conviction religieuse, fut reconnu par la loi. Vous savez que beaucoup de jeunes de l'école spirituelle en profitent, bien que l'école ne les y oblige pas et ne puisse le faire du reste, parce qu'il s'agit là d'un état d'être intérieur toujours soumis à un processus de croissance. Vous connaissez peut-être les grands idéalistes mondiaux qui ont conduit l'humanité à la conquête de ces conceptions hautement morales. Leur appel et leur exemple ont profondément troublé une multitude d'hommes au cours de ces années. C'est un fait cependant que cette belle et magnifique période, cette période d'idéalisme concret, idéalisme qui, dans les premières années du XXe siècle, a saisi les jeunes si puissamment, est maintenant définitivement passée. Cet idéalisme concret fut rattrapé par un courant d'événements mondiaux qui rendirent la majeure partie de l'humanité si durement réaliste que les beaux idéaux furent balayés comme par une tempête et se démontrèrent impuissants dans le mouvement des forces contraires. Bien que remarquables, leurs fondements manquaient des valeurs et des certitudes nécessaires. Et vous le savez, vous en avez peut-être personnellement fait l'expérience. Lorsqu'un idéal existe indéniablement sous un certain aspect, mais non sous d'autres, c'est un château de cartes voué très certainement à s'écrouler bientôt. L'idéalité ne devient réalité que si elle se libère d'abord sur toute la ligne de la conformité au monde et s'accorde parfaitement au plan de Dieu, à la base du vrai devenir de l'humain. L'idée, le slogan « Jamais plus la guerre » provient d'un désir venant du fond du cœur de réaliser le vrai devenir de l'homme. Mais comment assouvir, satisfaire un tel désir sans connaître le plan de la vraie évolution de l'humanité? Et si, par conséquent, on est entièrement et totalement adapté à la vie ordinaire de l'humanité du XXe siècle. On est alors comme un homme qui met le feu à sa maison et va ensuite s'asseoir sur les décombres en priant « Seigneur, donne-moi une maison ». C'est pourquoi un homme qui connaît et perçoit la réalité de notre siècle doit comprendre que s'il continue à se comporter comme à l'ordinaire, les guerres et les bruits de guerre, ainsi que les tensions et phénomènes afférents, continueront. Vous savez que c'est également le point de vue du Nouveau Testament.
Pensez à l'évangile de Matthieu, chapitre 24.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Toutes ces choses doivent arriver et ce n'est pas encore la fin. Pourquoi de telles choses doivent-elles arriver? En réponse à cette question, nous vous rappelons les paroles d'Hermès Trismégiste. La création de la vie par le soleil est aussi stable que sa lumière. Rien ne la retient ou ne la limite. Des courants de vie innombrables se tiennent comme une armée de veilleurs autour du soleil. Ils demeurent à proximité des grands immortels et de là veillent sur les affaires de l'humanité. Ils accomplissent la volonté de Dieu par des tempêtes, des orages, de grands incendies, des tremblements de terre et aussi par des famines et des guerres, en châtiment de l'impiété. Quand on lit ces paroles pour la première fois, elles résonnent comme celles de l'Ancien Testament et l'on pense alors à la justice divine vengeresse. Mais en réalité, on attire scientifiquement notre attention sur le fait que le macrocosme solaire entier, donc la totalité du système solaire et tout ce qu'il renferme, forme un formidable système astral très diversifié, conduit et dirigé par une seule loi centrale. Lorsqu'un être pèche, à l'intérieur du système microcosmique, contre les lois astrales de ce système, des réactions se produisent toujours, c'est inévitable, non comme un châtiment, mais comme un rétablissement de ce système par lui-même, provoqué par ceux-là même qui ont causé la réaction. Le macrocosme solaire est un système divin qui se corrige lui-même. Dans ce système, aucune irrégularité ne saurait être tolérée. C'est pourquoi tous les fléaux qui s'abattent sur la Terre ne sont rien d'autre que les conséquences des corrections astrales qu'opère lui-même le macrocosme solaire, donc les effets du rétablissement de l'équilibre intercosmique. Cet inéluctable rétablissement de l'équilibre conforme à la loi ne va pas quelquefois sans violence. Non dans l'intention de déclencher la violence délibérément, mais purement et simplement pour sauver du danger le principe même de la création à la base de l'unique but divin. Si, connaissant et pénétrant l'irréfutable vérité et l'irrésistible fonctionnement de cette loi solaire macrocosmique, une catastrophe nous arrive, il faudra bien réfléchir à cette question unique et prédominante, à cette unique exigence. Quelles mesures devons-nous prendre? Quelles mesures dois-je prendre? Quel comportement dois-je avoir? Quelles armes dois-je manier pour prévenir semblables réactions astrales et toutes ses conséquences? Vous le savez, l'humanité agit continuellement ainsi, mais de quelle façon? Pensez à la funeste manière dont l'Est et l'Ouest se sont armés l'un contre l'autre pour préserver la paix. Les diverses armes que les hommes possèdent actuellement pour leur protection peuvent avoir des suites si épouvantables que personne n'a encore osé les employer. Elles sont tout au plus considérées comme dissuasives. Mais tout homme pourvu de quelque compréhension se rendra compte que les pensées et les intelligences qui sont à la base de cette funeste production d'armes et les forces qui sont derrière doivent déjà susciter une telle agitation astrale que l'humanité est maintenant menacée de catastrophes beaucoup plus graves que les guerres. Ces catastrophes commencent déjà à se manifester. Le monde est divisé en deux camps. L'humanité est partagée en deux moitiés. À l'aide de tous les moyens dont dispose la civilisation actuelle, l'humanité est maintenue divisée entre ces deux camps. Les autorités favorisent cette division, pensant que si un groupe prend la direction, l'autre est perdu. Les deux groupes sont à tel point armés qu'aucun des deux n'ose attaquer l'autre. Ainsi, de puissants courants de nature astrale émanant du macrocosme solaire sont amenés à une très forte tension. C'est Gog et Magog dont parle l'Apocalypse. Ces tensions astrales enserrent le monde entier, l'humanité entière. Tous les humains sont concernés, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Deux forces de feu, deux fournaises inextinguibles sont attisées. C'est Armageddon, lieu de concentration des armes, la fin de toute une période de l'humanité, une destruction totale, le rétablissement de l'équilibre du macrocosme solaire. La fin de ceux qui ne jurent que par la nature de la mort. Ce désastre est-il prédit par la gnose universelle? Cela sera-t-il la fin? Eh bien, cela dépend de nous, de l'humanité actuelle. Toutes ces choses doivent arriver, à moins que nous, avec un groupe aussi grand que possible, de tout notre effort, nous trouvions une autre solution et nous réalisions une autre fin. Mais qui sera assez optimiste pour y croire? Soyons donc réalistes et raisonnables, cherchons le chemin de la délivrance, faisons l'effort de le suivre les deux pieds sur terre et de ce fait, entraînons avec nous un groupe aussi grand que possible. Il en a été ainsi dans toutes les périodes semblables de l'humanité. Une moisson des champs a toujours été rentrée, pour parler poétiquement. Néanmoins, ceux qui restèrent en arrière sont innombrables. Depuis les jours de Lao Tzu, la violence des catastrophes s'est déclenchée sur l'humanité, et cette violence s'amplifie de plus en plus. Et il a été prouvé, et il est prouvé de plus en plus, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, que l'on n'organise pas le royaume de l'humanité par la violence des armes. Ce que l'on fait à autrui se retourne contre nous. Partout où les armées sévissent, croissent les épines et les chardons. Aux guerres succèdent des périodes de désastre. Et la fin sera une crise ultime, un Armageddon.
La signature en est Gog et Magog, un rétablissement définitif des perturbations incessantes du macrocosme solaire et l'intervention du karma astral dans le corps astral de notre planète, par conséquent dans le champ de vie de l'humanité.
Il est souhaitable qu'après cette confrontation avec l'état réel du monde, vous en tiriez les conséquences inéluctables. Le monde entier et l'humanité entière sont divisés. La véritable situation, Gog et Magog, est clairement démontrée. Le champ astral de l'humanité est donc accordé à tout ce désarroi et entièrement empoisonné. Et seuls les hommes possédant une nouvelle force d'âme puissante n'en seront pas victimes. Tous les autres, sans exception, deviendront les dupes de la situation décrite et seront engloutis par les forces astrales actuelles, maintenant que l'on considère comme honteux de ne pas prendre position et qu'on exige de vous que vous vous déclariez très clairement pour ceci ou pour cela. Une question de conscience vous est posée. Comment? C'est la question que nous posons à ceux qui cherchent l'évolution par la conscience gnostique. Comment doit-on se comporter à l'égard de tout ceci? Comment peut-on, poussé par l'amour de Dieu qui nous a touchés, servir le monde et l'humanité dans pareille conjoncture? Comment peut-on, vu la situation mondiale, se placer sur la courbe de l'évolution? Sous la conduite du Tao Te Ching, nous examinerons de plus près, au chapitre suivant, cette question qui provoque peut-être en vous un conflit de conscience.